Chapitre 10. Pierre seul. La cloche du sanctuaire sonnait minuit. Zizo marchait dans la nuit, éclairé d'une lampe à huile empruntée au dortoir des filles singes. Sabi s'était réveillée alors qu'il traversait le couloir sur la pointe des pieds.
« Trop romantique, les amoureux !»
avait-elle murmuré, croyant que Zizo avait organisé un rendez-vous nocturne avec Alix. Puis elle s'était endormie, et Zizo était sorti seul. Zizo détestait cacher des choses à ceux qu'il aimait, mais cette fois, il n'avait pas le choix. Il devait se rendre seul au rendez-vous de Chrysante. Aucun ado, à part Alix, bien entendu, n'était dans la confidence. Sa lampe éclairait faiblement les allées du cimetière. Il lui paraissait plus grand qu'une forêt. Il était venu porter ce matin-là une rose rouge au pied de l'ange des monts volants et avait mis presque 2 heures à découvrir l'étrange tombe de cet Oscar Wilde, un homme volant sculpté dans la pierre, portant sur son dos des ailes de béton. S'il s'était perdu en pleine journée, réfléchissait Zizo, comment espérer la retrouver de nuit? D'après Valère, le cimetière du Père Lachaise comptait 70 000 tombes et plus de 100 allées. Zizo pestait contre lui-même en éclairant les rectangles de marbre. Il aurait dû y penser ce matin. Il aurait dû mémoriser des repères ou laisser tomber derrière lui des petits cailloux de couleur ou au moins tracer avec son pied à chaque croisement une flèche dans la poussière. Il s'était dit qu'il retrouverait le chemin et il ne le retrouvait pas. Plus il se perdait dans les allées sombres, plus sa colère se retournait contre Chrysante. Tout était sa faute. Pourquoi lui donner rendez-vous à minuit? Pour être certain de n'être pas suivi? Et pourquoi dans un endroit aussi étrange qu'un cimetière? Jamais personne ne se rendait dans les cimetières. Bien entendu, il avait appris que dans le monde d'avant le passage du nuage, ces plaques de pierre étaient fleuries par les familles et les amis. Les cimetières étaient entretenus, les arbres coupés, les allées désherbées. Rien à voir avec cet immense parc où les herbes folles poussaient entre les tombes et où les cimes des arbres se rejoignaient au point de former d'épaisses voûtes végétales au-dessus de chaque allée, intensifiant encore l'obscurité. Zizo avait l'impression de tourner en rond. Il éclairait des tombes et déchiffrait les lettres gravées, des noms inconnus le plus souvent, et parfois des noms dont il avait vaguement entendu parler lors des cours au pavillon des savants ou des singes. Molière, La Fontaine, Racine. La succession de dates de naissance puis de dates de décès lui donnait le vertige. Tous ces hommes, ces femmes avaient vécu sur terre comme eux, puis avaient disparu. Il ne parvenait pas à chasser les idées macabres que ce lugubre décor lui inspirait. Que ferons-nous ? Se demanda-t-il soudain. Quand le premier des enfants du Nouveau Monde viendra à mourir. Ça arrivera forcément. Pas tout de suite, évidemment. Aucun enfant, ni au château, ni au tipi, n'est mort depuis que nous sommes en âge de nous en souvenir. Mais cela arrivera, obligatoirement, un jour, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans. Que ferons-nous alors? Nous ne croyons pas en Dieu, à ses formules en latin, à ses saints avec leur assiette derrière la tête, à ces histoires racontées sur les vitraux du sanctuaire, à ces croix qui dansent derrière les flammes de ma lampe. Inventerons-nous une nouvelle religion? Est-ce que c'est obligé d'inventer quelque chose qui rassure quand quelqu'un que vous aimez disparaît comme Agnel sur son bateau? Inventer quelque chose de rassurant. Ce cimetière n'avait rien de rassurant. Zizo marchait déjà depuis près d'une heure dans le cimetière noir. Au moins, il était certain de ne pas être suivi. Il n'y avait pas une seule trace de vie dans cet endroit maudit, à l'exception des chats qui en avaient fait leur royaume et dormaient paisiblement entre les tombes. Il longeait un haut mur quand il s'arrêta, tétanisé. Sa lampe éclairait des cadavres. Pas des cadavres de félins, des cadavres d'humains. Quelle que soit la direction vers laquelle il braquait sa lumière, des monstres apparaissaient dans le halo. Des squelettes empalés sur des ronces, des corps maigres, sans chair, allongés, Des mains tendues, des jambes tordues, des mâchoires édentées et des yeux exorbités. Un peu plus loin, des fantômes au dos courbé portaient d'autres morts aux os disloqués dans une brouette. Tous immobiles, comme pétrifiés dès que le rayon de sa lampe les touchait. Des statues. Cela apaisa un peu Zizo. Il ne s'agissait que de statues de fer, de pierre ou de bronze. Il se pencha pour lire quelques mots. Auschwitz, Buchenwald, Dachau, Mauthausen. Puis, quelques phrases qui toutes évoquaient la persécution et l'assassinat de millions d'innocents par les nazis. Il resta un moment à méditer sur cette horreur inimaginable, puis s'éloigna rapidement, mal à l'aise. Il avait compris que ces monuments entretenaient la mémoire d'un massacre, d'un de ces massacres fréquents dans le monde d'avant le passage du nuage. Marie-Lune, dans les vidéos, en parlait souvent et répétait encore et encore aux enfants qu'il fallait se souvenir pour que plus jamais, dans le monde nouveau qu'ils avaient à construire, les hommes et les femmes ne s'entretuent. Il était d'accord, bien entendu. Qui aurait pu avoir envie de commettre de telles atrocités? Zizo continua de chercher pendant encore de longues minutes l'ange des monts volants, une allée, puis encore une autre, puis beaucoup d'autres, sans en trouver la moindre trace. Il s'apprêtait à renoncer, tant pis pour cette folle de Chrysanthe et ses idées loufoques, lorsqu'il aperçut, au bout de l'allée, sous une voûte de branches tordues qui ressemblait à des squelettes sortis de leur cercueil, des petites lumières. On aurait dit des étoiles tombées par terre. Il avança. Des bougies. Des bougies étaient disposées sur le sol. La mise en scène était signée Chrysanthe, évidemment. Moins d'une minute plus tard, il se retrouvait devant l'ange des monts volants. La tombe monumentale était éclairée par une vingtaine de bougies disposées en cercle. Chrysanthe l'attendait, perchée sur la statue.
« T'en as mis du temps. »
« J'étais... »«
Perdu, oui, je sais. »
Je regardais ta lampe flotter dans la nuit.
« T'es passé 3 fois à moins de 20 mètres de là. Au moins, t'as pas été suivi. »
« Et tu n'aurais pas pu m'appeler ?» Chrysanthe fit comme si elle n'avait pas entendu. « Incroyable, pensa Zizo. Pendant tout le temps où il errait dans le cimetière, perdu, elle n'avait donc pas cessé de suivre sa lampe des yeux. » Chrysanthe se pencha sur un petit panier de rotin tressé, garni de paille, posé à côté d'elle.
La lit attendait pour aller au lit.
Elle exposa sa poupée à la fragile luminosité. Bonne nuit, Lali, fit Zizo d'une voix fatiguée. Il s'assit sur la tombe la plus proche.
Elle n'est pas habituée à se coucher aussi tard, expliqua Chrysanthe. Mais ce soir, c'est exceptionnel. Elle t'aime bien, tu sais, bien plus que tu ne le crois.
Elle prit encore près d'une minute pour allonger sa poupée dans son berceau, l'embrasser et lui murmurer des secrets à l'oreille, puis enfin se tourna de nouveau vers Zizo. Elle tenait le livre contre sa poitrine, entre ses bras croisés. Elle avait pris soin de rester perchée sur la statue, à plus de 3 mètres au-dessus de lui. Zizo devait lever les yeux pour croiser son regard fuyant. Il décida d'être le plus franc possible.
Alix sait que je suis ici. Rassure-toi, elle ne dira rien au conseil. Pour l'instant, du moins. Tu sais qu'une dizaine de savants travaillent jour et nuit pour essayer de déchiffrer les 6 dessins de la couverture que tu caches? Et qu'au moindre indice, une armée de soldats débarquera pour le récupérer?
Chrysanthe ouvrit le livre, sans un mot. Bien, merci pour ne pas t'avoir dénoncé, pesta intérieurement Zizo. Ce serait trop.
Tu me prêtes ta lampe?
Se contenta de demander Chrysanthe. Zizo se leva, escalada la base de l'ange démon et la lui tendit. Il retourna ensuite s'asseoir sur la tombe la plus proche, au pied de la statue. Les bougies s'éteignaient les unes après les autres, faute de mèches assez longues, de cire, ou soufflées par un courant d'air. Comme si les étoiles, petit à petit, s'éteignaient. Le jour n'était pourtant pas près de se lever. Zizo se retrouva bientôt
dans une quasi-obscurité, avec pour seule source de lumière le halo de la lampe derrière le livre ouvert.
« Tu es prêt ?»
demanda-t-elle. « Prêt à quoi ?» répondit Zizo avec un air de défi.
« Prêt à rencontrer celui qui nous a élevés ?»« C'est son journal, »
se contenta d'ajouter Chrysante.
« C'est son journal que Mordelia avait trouvé. »
Et d'une voix studieuse de petite fille qui n'a jamais été à l'école, Chrysante se mit à lire. « Je m'appelle Pierre Seul. C'est ainsi que m'appellent les enfants. Plus personne, depuis longtemps, ne m'a appelé autrement. Je suis médecin épidémiologiste à l'hôpital de la Salpêtrière et chercheur en immunologie au laboratoire Utopie. Je suis un curieux mélange à la fois médecin et savant, comme on l'était souvent avant, moins maintenant. Quand j'écris « avant », cela signifie « avant le passage du nuage ». Avant, donc, j'étais surtout savant. Je travaillais sur les allergies, les pollutions. Je fais partie de ceux qui, par leurs compétences, auraient dû prévoir, voir venir ce nuage invisible et inodore, ou au moins le détecter, alerter. Tant de vies auraient pu être sauvées. Mais comme pour tous les autres savants, mes connaissances n'ont servi à rien. Je n'ai rien vu venir, rien senti, rien compris. Aujourd'hui, je suis surtout redevenu médecin. Je soigne des enfants, beaucoup d'enfants, le plus possible. Je soigne tous ceux qui en ont besoin, tous sauf moi. Moi, je ne me soigne pas, il est trop tard. Je sais qu'il ne me reste plus beaucoup de temps à vivre. Pour cette raison, j'ai décidé d'écrire ce journal. Y aura-t-il beaucoup d'autres témoignages que le mien ? Qui prendra ce temps ? Qui prend le temps d'écrire alors qu'il ne lui reste plus que quelques mois à vivre ? J'aurais pu commencer ce journal par une question, celle que chacun se pose nécessairement. D'où est venu ce nuage ? Mais l'urgence est ailleurs aujourd'hui. L'urgence est à la survie. Pas la mienne, mais celle de l'espèce humaine. Beaucoup d'êtres humains sont décédés depuis le passage du nuage. À vrai dire, presque tous. Tous, sauf les nouveau-nés, dont les mamans ont survécu assez longtemps pour accoucher. Cela représente quoi, en pourcentage de l'humanité ? À peine 1%. Les 99 autres étaient condamnés. Mais 1%. Imaginez, pour une ville comme Paris, cela représente des centaines, des milliers de bébés. Des milliers de bébés dont les mamans sont mortes, dont les papas sont morts. Des milliers de bébés, avec seulement une poignée d'adultes pour s'occuper d'eux. Nous avons été quelques centaines d'adultes à survivre, la première année, après le passage du nuage. Quelques dizaines la deuxième année. Nous ne sommes plus que 7 aujourd'hui. Il y a peu de chances que l'un d'entre nous survive après Noël. D'après mes analyses, je serai ce dernier. Les bébés nés après le passage du nuage ont 4 ans aujourd'hui. J'écris pour qu'ils se souviennent, car quand plus aucun adulte ne sera là pour entretenir leur mémoire, leurs souvenirs s'en iront, comme s'ils n'avaient jamais existé. Il ne restera de nous que quelques silhouettes, une odeur, une voix, mêlées aux milliers de rêves qu'ils feront. Pour ceux qui survivront. Combien survivront quand je ne serai plus là ? Nous devons sauver tous ceux que nous pourrons. C'est ma mission, ma dernière mission. Nous devons leur apprendre à se débrouiller seuls, à manger, à dormir, à se laver, à chasser, mais aussi à se loger, à se protéger du froid, à respecter la nature qui les entoure, à s'en méfier, à se respecter les uns les autres, à s'écouter, jouer, s'entraider, à apprendre à lire aussi pour les plus précoces. Je suis médecin savant, c'est déjà beaucoup. Pas maître d'école, j'ai fait ce que j'ai pu. Combien survivront ? Combien ont survécu ? C'était la plus douloureuse de mes missions. En comparaison, il était si facile de les soigner ou de tout leur enseigner, mais j'étais si peu préparée à les enterrer. Il fallait bien que quelqu'un pourtant leur rende un dernier hommage. La plupart des bébés se sont rendormis à jamais, quelques jours, quelques semaines après être nés, faute de lait, de maman, de lit, de chaleur, de soins, faute d'amour tout simplement. Ils s'endormaient pour toujours un peu partout, dans des maisons vides, dans des appartements silencieux, dans des hôpitaux désertés. Nous étions encore assez nombreux, alors nous les avons recueillis et inhumés dans un vrai cimetière. Que nous soyons croyants ou non, peu importait notre religion, nous avons fait ce qu'il fallait, je crois. Nous avons gravé une plaque à l'endroit où tous les enfants du Nouveau Monde qui n'ont pas survécu sont rassemblés. Les enfants du nuage, comme nous les appelions. Nous avons gravé leur nom, quand nous le connaissions, sur le mur du cimetière, accompagné de brèves explications pour que les enfants qui vivront se souviennent de ceux de leur âge partis trop tôt, de ceux qui auraient pu devenir leurs copains d'école, qui auraient pu construire avec eux ce monde nouveau, sans en laisser la responsabilité à une poignée de survivants. Ils sont 600 aujourd'hui dans les rues de Paris. Combien atteindront l'âge de 5 ans à la fin du printemps prochain? Combien atteindront 6 ans au printemps suivant? Combien atteindront 12 ans, 14 ans, 16 ans? L'hiver approche. Déjà, beaucoup d'enfants souffrent du froid. Ils souffriront bientôt de faim. Que vont-ils devenir? Sont-ils tous condamnés quelques semaines après que le dernier adulte aura disparu? Sont-ils tous condamnés à leur tour à mourir? J'ai tellement réfléchi à la question. Et j'ai, je crois, trouvé la solution.
Chrysante s'arrêta de lire. Elle referma son livre et immédiatement, la lumière de la lampe à huile éclaira l'ange démon volant et les tombes alentour.
Continue ! Cria Zizo en plissant les yeux, aveuglé. C'est quoi sa solution ?
Il apercevait en contre-jour la silhouette courbée de Chrysante, occupée à ranger le livre dans son sac.
« Il n'a rien écrit d'autre ?»
s'énerva Zizo.
« Son récit se termine comme ça ?»
Il prit le temps de se calmer et de réfléchir.
« En tous les cas, sa solution a fonctionné, puisque nous sommes là. »
« Il parle de 600 enfants à sauver, »
fit doucement Chrysante.
« Nous ne sommes que 89 enfants au tipi. »
Zizo se mordit la lèvre. Il n'avait pas réalisé.
« Et il ne dit rien d'autre dans son récit ?»«
Si. »«
Lis la suite alors !»
répéta Zizo en haussant la voix. De toutes les façons, il ne risquait pas de réveiller les voisins. La lit à la rigueur.
On doit trouver l'endroit avant,
expliqua calmement Chrysante.
L'endroit, quel endroit?
Celui dont il parle. Là où tous les enfants du nuage qui n'ont pas survécu ont été rassemblés, sous une plaque gravée.
Il parle d'un cimetière, ça doit forcément être ici.
Chrysante hocha la tête.
Non, j'ai cherché partout. Ce n'est pas là. Mais il y a une dizaine d'autres cimetières dans Paris. On doit chercher. On doit trouver tous les trois.
Tous les trois, pensa Zizo, à jouer aux explorateurs. Il imaginait mal la cohabitation entre Chrysante et Alix.
Oui, tous les trois. Toi, moi et Lali.